Bonjour et bienvenue dans le Bulletin Azur, épisode 000002. Nous sommes le 8 novembre 2011 et nous enregistrons donc cet épisode avec à nouveau Pierre, Thomas et Benjamin. Donc nous sommes à nouveau réunis tous les trois.
Absolument. Donc Pierre Cousy, notablement
Voilà.
absent. Thomas Conté, c'est moi-même, architecte Windows Azure chez dans la division DPE de Microsoft.
Et Benjamin Guinbertière, pareil.
Bravo.
Voilà, donc pour rappel, le bulletin Azure, l'adresse de référence c'est akms/lebulletinazure, tout collé en minuscules.
Facile.
On va faire les annonces également de la sortie des épisodes quand ils sont prêts sur le compte Twitter de Windows Azure
Le
FR.
Twitter officiel de Windows Azure en France.
Exactement. Et si vous voulez nous écrire, il y a nos trois comptes, @benjguin, @pierrecou et @tomcomté.
Parce qu'on ne parle plus qu'avec Twitter.
Voilà, c'est ça.
C'est comme ça.
Les trois épisodes de Cloud Cover Show, qui est le bulletin Azure mondial,
Voilà, la source d'inspiration aux US.
Voilà, donc les trois épisodes dont nous parlons sont les épisodes 62, 63 et 64 dont nous nous sommes inspirés. Donc, quelles sont les actualités en France?
Les Microsoft Days.
Oui.
D'accord, donc ça c'est la tournée nationale qui est en cours depuis quelques semaines déjà. Il nous reste une date à Lyon cette
Oui.
semaine, Bordeaux la semaine prochaine,
C'est ça.
et après c'est fini.
Et après c'est
Donc
fini.
c'est sur la fin. Donc
Voilà.
si vous habitez à Lyon ou à Bordeaux, vous venez au Microsoft Days et on parle de Windows Azure avec une
Voilà.
session de Benjamin.
Voilà, sur le développement d'un site web fonctionnel et élastique, donc les CMS et Azure. Il y a également Pierre qui fait
Tout à
sa
fait.
session sur Azure pour les développeurs. Et toi, Thomas?
Et moi, je parle de JavaScript pour les développeurs .NET, mais il y a un petit bout d'Azure dedans, puisque je parle de Node.js, qui est
Oui.
un serveur JavaScript qu'on peut exécuter dans Windows Azure.
D'accord. Et il y a Stéphanie également qui a toute une session sur une application et avec des bouts d'Azure dedans aussi.
Fantastique.
Les vidéos de l'après-midi du Dev Azure sont sorties.
Absolument. Donc, un après-midi du dev qu'on a fait il y a quelques semaines, là
Oui.
aussi, dans lequel on a plusieurs sujets, une introduction un peu sur l'ensemble de la plateforme, un petit dive dans différentes fonctionnalités, sans être trop dans le détail, mais déjà on rentre un peu dans le détail.
Et après, architecture d'une application, trois petits points.
Ah, une application, trois petits points. Ah bah l'application, et c'est une application Facebook. Donc ça,
D'accord.
c'était ma session.
Voilà.
Donc l'architecture d'une application Facebook avec montée en charge dans Windows Azure. Et puis après, on est passé sur des sujets. J'ai avancé, donc là c'était toi,
C'est
forcément.
ça. Et puis après, interop avec Pierre.
Avec Pierre qui a
Donc
parlé
ça, c'était
de
Pierre.
PHP et de Zephyr. Voilà.
Et donc, vous retrouverez tous les liens en allant sur ak.ms/videoamdevazure.
Ok.
Il y a également pas mal d'autres événements qui sont annoncés sur le blog de Windows Azure France, donc
Absolument.
blogsmsdn.com/Windows Azure France. Si vous ne mettez pas le B, ça marche quand même.
C'est vrai.
Et voilà, donc vous retrouverez ça à cet endroit-là.
Voilà, il faut regarder tout ça. Il y a des événements partenaires, des événements, des formations organisées par Microsoft. On les trouve ici. On en a en novembre, quasiment tous les mois, on a au moins une ou deux sessions de formation Windows Azure pour les développeurs.
Voilà, donc nous allons passer sur ces différents onglets qui reprennent les
Là,
nouvelles.
c'est tout petit, là.
C'est tout petit. Alors, hop, pardon. Donc, premier élément, donc dans l'épisode 62, il y a Christian Jensberger qui nous parle en fait de la marketplace Azure. Et en particulier, il fait une démonstration de comment est-ce qu'on peut modifier une application de façon à ce qu'on puisse acheter cette application
Ah, d'accord.
dans la marketplace
Ok.
et faire en sorte qu'effectivement elle soit utilisable via la marketplace et qu'on puisse
Donc la
provisionner
diffuser
un
ou la
compte.
vendre
Oui.
via la
Voilà, c'est ça.
marketplace. Fantastique.
Exactement.
Ensuite,
In place
ouais,
updates.
on a annoncé là il y a quelques semaines une mise à jour de tout ce qui est in-place update. Donc
Ouais.
en termes de déploiement Azure, on peut redéployer une application
Ouais.
et ensuite donc on l'efface, on la redéploie. On peut faire du VIP swap, déployer une application à côté et puis ensuite échanger les déploiements.
Hop.
Hop, comme ça. Ou alors on peut faire de l'in-place update. Mais dans l'in-place update, on avait plein de limitations. Il y avait plein
D'accord.
de choses qu'on pouvait pas faire. Et notamment, on pouvait pas ajouter de rôle, on pouvait pas changer la taille de la VM. Voilà. Et donc ces limitations ont dans l'ensemble été levées, ce qui est très intéressant. Donc on peut faire un in-place update, ouais, qui va mettre à jour l'application de façon graduelle, mm-hmm, qui va changer des réglages de ce type-là. Par D'accord. exemple, la taille de VM. On peut passer d'une small à une medium, mm-hmm, avec une in-place update. On ça, peut changer le local les settings de local storage, donc la taille de données de disque qu'on va avoir en local. On peut rajouter des rôles, on peut changer des endpoints. Tout ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que la in-place update a le gros avantage de préserver l'adresse IP.
Oui.
Alors, c'est pas la seule, mais notamment, elle permet de préserver l'adresse IP. Elle ne nécessite pas d'avoir un deuxième déploiement temporaire pour faire un VIP swap.
Donc, oui, parce que le VIP swap permet aussi de garder l'adresse IP. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est ne plus rien avoir sur la production à un moment.
Si on délète le host de service, on peut perdre l'adresse IP. Exactement. Donc voilà. Alors il y a juste un tout petit warning qui est que quand on fait un certain nombre de ces choses-là, notamment quand on change la taille de VM, on va repartir sur des instances toutes vides, toutes nues.
Ouais.
Donc on va perdre ce qu'il y avait éventuellement en local sur l'ancienne
d'accord,
VM finalement. Donc il faut juste le savoir. Et donc il faut mettre un flag force effectivement pour autoriser ça.
D'accord.
Voilà. Et donc à la fin du blog post, il y a un petit récapitulatif des différents types de déploiement possibles.
Fort bien.
Une petite note d'un architecte service chez nous qui nous explique comment appeler l'API du Windows Azure Storage, donc notamment les tables ou les blobs, de façon asynchrone, ce qui est intéressant pour des scénarios de montée en charge où on n'a peut-être pas envie d'attendre la réponse et de bloquer une thread quand on attend la réponse.
Ouais.
Et donc il propose deux méthodes, une classique avec un delegate et une un petit peu plus rusée à base de lambda et qui simplifie un petit peu le passage du résultat de l'appel à la fonction d'origine.
Cool. Alors, comment David Ecken a fait un blog post, un billet pour indiquer comment est-ce qu'on pouvait bloquer les déploiements qui sont non valides, c'est-à-dire que, par exemple, quand depuis le SDK 1.4, quand on déploie un package, il peut manquer des références ou des et dans ce cas-là, on a un warning.
Il le détecte.
On a un warning. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme ce warning en erreur, tout bêtement, de façon à être sûr que ça ne part pas quand même.
Qu'on va pas déployer une version qui ne marche pas. Ok, donc David Aiken, on a encore un ou deux postes à lui.
Ouais.
Il a deux postes là sur gestion des Azure Diagnostics.
Ouais.
Alors en fait, ce poste-là vient après le suivant, chronologiquement.
Ah, attends, on va le faire dans l'autre sens.
Mais,
hop, voilà.
Éventuellement, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc première chose, c'est les diagnostics, je les active.
Oui.
Ok, donc alors, assez classiquement, nous, ce qu'on montre souvent, c'est du code dans le démarrage d'un worker role ou d'un web role qui va activer avec l'API .NET les diagnostics. Et la remarque fort judicieuse de Monsieur Aiken, c'est que finalement, on a aussi des CMD Let's PowerShell qui sont peut-être plus mieux adapté puisque ça permet à un administrateur qui connaît PowerShell de configurer le diagnostic comme il veut depuis sa station de travail et sans que ça soit dans le code finalement.
D'accord, il va dire par exemple je veux récupérer le temps CPU toutes les 15 secondes par exemple.
Et donc le blog post est très détaillé puisqu'il dit d'abord le BABA des CMDLET, c'est comment mettre son certificat, se connecter, récupérer son déploiement, comprendre un peu les déploiements. Et après pour toutes les choses qu'on peut loguer, il explique comment on les active, donc les diagnostics logs, les logs de ZIS, les logs d'infrastructure qui sont spécifiques Azure, et puis les compteurs de perf, les compteurs de perf qui vont être intéressants pour monitorer la plateforme.
Par exemple.
Exactement, donc typiquement le processor time, la mémoire, etc.
D'accord.
Donc à la fin, on a un exemple bien complet qui permet d'activer tout ça. Donc c'est une bonne recette.
Faut pas être allergique au PowerShell.
Il faut aimer le PowerShell, mais bon, en l'occurrence, c'est quand même bien pratique.
Ça
permet à l'administrateur de le faire parce que c'est plutôt une tâche d'administration quelque part. Donc c'est pas mal. Et donc la suite, c'était maintenant que j'ai collecté des logs de diagnostic,
j'en ai partout,
ils viennent s'entasser dans mes tables.
Ouais.
Il a fait un petit script qui permet assez facilement d'aller déléter, effacer des d'anciens logs qui ne serviraient plus.
Voilà. Pour faire un peu le ménage.
Donc alors après c'est toujours pareil, c'est un exemple, on peut l'utiliser tel quel ou bien le modifier pour faire un peu ce qu'on veut.
J'aime bien cette ligne là. $toDelete pipe for each. $.delete.
Voilà.
J'aime bien les scripts comme ça.
Bah oui.
Alors, Windows Azure Toolkit for Windows Phone version 1.3.1. Alors, c'est fait pour fonctionner avec le Windows Phone SDK 7.1. Donc pour le téléphone Windows Phone 7.5.
C'est 7.5.
Et c'est adapté aussi au Windows Azure SDK 1.5.
Donc là, au bingo des SDK, je pense que...
Je crois qu'on a à peu près tous les numéros. Il y a de quoi faire un bon loto.
C'est impeccable.
Mais en gros, c'est ce que ça permet de faire.
Bon, super.
Et puis, il y a quelques mises à jour. Parmi les mises à jour intéressantes, il y a aussi deux nouveaux exemples. Twitter Blobs et un CRUD SQL Azure.
Donc, Twitter Blobs.
CRUD SQL Azure, c'est, ça fait ce qu'on imagine. Create, thread, read, update, delete dans une base SQL Azure à partir du téléphone. Et Twitter Blobs, en fait, on prend une photo, ça la met sur le blob.
D'accord.
Et ça la tweet via un Bitly. Et voilà.
D'accord, donc c'est une bonne application d'exemple qui utilise le SDK Phone.
Exactement. Et depuis, il y a également un épisode, donc l'épisode 64 de Cloud Cover Show, qui explique que ce toolkit, il a été décomposé en plein de packages NuGet.
Ah, d'accord.
De façon à ce que...
Ça, c'est pas mal.
Ouais. Okay. De façon à ce que, en fait, plutôt que d'avoir un gros exemple avec plein de trucs dedans, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, on démarre d'une application Windows Phone, et puis, par exemple, je vais rajouter les push notifications.
Ah, c'est très bien, ça.
Du coup, je prends un NuGet package, je rajoute ça, il y a les différents éléments, en fait, ou alors je veux rajouter une authentification ACS, Access Control Service, et bien, dans ce cas-là, via le NuGet package.
Le toolkit est un peu monolithique, on va dire.
Voilà.
Donc, ça, c'est pas mal.
Donc, là, il est polylithique. Super. Maintenant.
Alors, un petit post de Nathan Totten, qui est évangéliste aux US, et qui nous fait remarquer, fort justement, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement dit, que depuis le SDK 1.4 et donc à fortiori en 1.5, il est devenu possible d'éditer les fichiers statiques d'une application web et de voir la modif en local sans avoir à redéployer dans l'émulateur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant, en 1.3 notamment, quand on modifiait juste une CSS ou un bout de JavaScript, il fallait stopper l'application et la relancer dans l'émulateur. Ce qui prend, quand même 15, 20, 30 secondes, ce qui est énervant quand on a juste changé une carotte de syntaxe. Et donc, maintenant, on peut changer le fichier statique et faire reload dans l'ordinateur et on a le nouveau fichier.
Ah oui, puisqu'en fait, il est exposé par IIS, du coup,
exactement,
il est en direct sur les sources.
Il n'a pas fait une copie, exactement, et donc on peut modifier directement les fichiers statiques.
Très bien.
Et oui.
L'épisode de 63 nous parle de Blobshare. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, Blobshare, en fait, il en est question aussi ici. Donc, c'est un exemple de code qui est téléchargeable sur CodePlex et qui permet de partager des fichiers à des personnes dont on a l'adresse email.
Un peu comme un Dropbox, un peu.
Ou un SkyDrive, etc.
Ou un SkyDrive,
La différence principale, c'est qu'on peut avoir évidemment la détail assez importante sur les blobs, puisqu'en fait, il suffit de payer pour avoir un blob énorme. Et par ailleurs, il y a le suivi en fait, de qui a effectivement accepté l'invitation,
et
qui télécharge quoi, etc., etc.
Donc, on a
Il y a la fonction flicage en plus.
Ouais, c'est bien ça, c'est bien.
Non, et donc, il y a sur son blog, on a Vittorio Bertocci qui nous a expliqué dans le détail un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là, simplement... On voit donc là le modèle de données.
Vittorio, il aime bien écrire.
Oui, il aime bien écrire.
Quand même.
Donc il y a le modèle de données de la base, puisqu'il y a une base SQL Azure en fait qui permet de suivre les choses. Là, il y a un schéma synoptique sur lequel je ne m'étendrai pas.
D'accord.
Et puis ensuite, il y a plein de copies d'écran. Donc là, on voit par exemple que la première fois qu'on a déployé, on a un token en fait qui est dans le fichier de config qui permet de devenir administrateur. Donc le principe, c'est que soit par une invitation quand on reçoit les blobs ou quand on est administrateur, on a cette invitation soit parce qu'on a le code quand on est administrateur, soit parce qu'on a reçu un mail.
Okay.
Et dans les deux cas, après, on s'authentifie avec ce qu'on veut.
D'accord, via ACS.
Donc ça, c'est via ACS. Mmh. Il y a une implémentation en interne à Microsoft où, en fait, on peut s'authentifier aussi via la DFS de Microsoft.
D'accord.
Et puis, ça associe, en fait, l'authentification qu'on utilise avec l'invitation.
D'accord.
Et à partir de là, on hérite des droits. Donc, tout ça, ça montre un peu ça. Comment est-ce que ça se présente, etc. Ensuite, on a une partie, donc là, avec les droits, les rôles qu'on peut donner aux différentes personnes, le fait d'inviter des personnes, le fait que la personne puisse elle-même changer des choses, le fait qu'on puisse la désactiver. Bon. Et à la fin, il y a un autre élément intéressant qui sont justement l'audit. Donc, le fait de voir un peu ce qui s'est passé, l'historique,
pour voir ce qui s'est passé,
qui a téléchargé quoi, etc.
Eh bien.
Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi lire, il y a ce blog post.
Ah oui, ça, c'est, ouais. C'est bien.
Ah bah, puis il y a des images en plus, on peut lire aux enfants le soir si on veut.
C'est fantastique. Alors, un petit billet de notre ami Steve Marx.
Oui.
Donc, il nous propose là sur GitHub un petit sample intéressant. Alors, si on clique sur le lien GitHub juste pour regarder, c'est un truc tout simple qui permet donc de déployer un exécutable,
oui.
Type un serveur qui tournerait tout seul. Alors, il prend l'exemple de Mongoose qui est un serveur HTTP. On pourrait penser à MongoDB qui est aussi juste un process ou Node.
Qui est aussi un serveur HTTP.
Non, mais qui a l'avantage de tourner juste avec un point exé sans rien tout seul. Oui. Et si on va dans le service des Definition, en fait, ce qu'il illustre, ce sont des nouveautés dans le service modèle du SDK 1.5.
D'accord.
Qui permettent, on le voit ici, plusieurs choses. Alors d'abord, on a le programme Entry Point qui permet de demander à Azure, juste en dessous, d'exécuter un processus externe.
Ah oui, ça, c'est bien,
donc au lieu de démarrer dans un worker role classique, il va lancer ici run.cmd qui, à son tour, va lancer un exécutable.
Ah, et quand on n'est pas en .NET, effectivement, plutôt que d'implémenter la méthode run, on va dire fais le run.
Voilà, au lieu d'avoir un petit bout de code .NET qui va lancer son process, et ben là directement par configuration on le fait, on a plus de petit bout de code .NET.
Et du coup c'est surveillé aussi quoi, donc.
Et c'est surveillé aussi. Et pourquoi il passe par un point .cmd? Parce que pourquoi passe-t-il? Et bien parce que il en profite pour positionner des variables d'environnement, c'est juste au-dessus. Donc ça permet finalement de passer des paramètres à l'exécutable sous la forme de variables d'environnement.
Ouais.
En l'occurrence on veut lui donner par exemple le port sur lequel on veut qu'il écoute. Comme ça on va pouvoir lui passer moins port. Donc là, on définit une variable d'environnement qui sera retrouvée par le point .cmd et on voit un autre nouvel élément.
Après, dans le point .cmd, en gros, on utilise porte.
Exactement, absolument, dans l'environnement, donc pour son port, j'imagine. Et on voit aussi le role instance value qui est également nouveau. Ouais. Ça permet avec une expression
xpath,
il est dans le variable name égale port.
D'accord, oui, pardon, oui.
Il permet d'aller passer finalement dans cette variable la valeur d'une autre variable de configuration. En l'occurrence ici, il va chercher le endpoint et qui s'appelle HTTP in et il va prendre le numéro de port qui est associé. Donc automatiquement, si on a mis 80 ou 80, c'est la valeur qui sera mise dans la variable d'environnement.
En fait, on retrouve la syntaxe qu'on aurait en .NET, sauf que là, elle est sous une forme xpath.
Exactement.
Et voilà, ce qui a du sens.
Et donc ça, c'est bien pratique, parce que donc là, on récupère la valeur, on la passe à l'exécutable, on lance l'exécutable, et tout ça, c'est en code.
Pas mal.
Donc un bon petit sample qui ne marche qu'en SDK 1.5.
D'accord, et en quelques lignes en plus.
Il n'y a rien d'autre.
Il y a un concentré de subtilité ici.
Absolument. Ouais, c'est quasiment de la poésie presque.
Ouais, quasi. Ça arrive, je pense.
Ouais.
Alors, le Platform Training Kit October Update. Comme on est en novembre, il y a eu un Training Kit d'octobre.
C'est vrai. Il y a eu un septembre aussi, ça.
Oui, dans lequel il y a pas mal de choses. Hein. Donc, plus ça va, plus il y en a. Mais fait, c'est vraiment une mine.
Ah oui,
il y a plein de choses là-dedans. Il y a entre autres des vidéos, il y a des labs, il y a des
démos,
scripts de démo.
Il y a plein de codes pré-emploi.
Des présentations. Vraiment, il y a plein de choses. Et en particulier, il y a plein de nouveaux labs.
Et oui.
Pour les labs, c'est l'exercice où on s'entraîne. Hein. En gros, on a un document Word qui nous dit faites ça, et puis ça permet de comprendre. Donc là, il y en a un sur les Data Tier Application ou les DAC. Ouais. Donc,
parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés dans SQL Azure. Hein. Ouais. Donc il y a beaucoup de nouveautés SQL Azure dans le Training Kit.
Voilà, exactement. Donc là, en plus, avec la sortie imminente de SQL Server 2012, forcément, il y a ce format DAC aussi qui évolue. Mmh. Et donc voilà. Donc il y a un premier lab sur DAC, un deuxième sur SQL Azure Reporting. Donc en gros, on crée un report et puis on le publie dans SQL Azure Reporting. Un sur SQL Azure Data Sync pour synchroniser différentes bases SQL Azure et ou SQL Server. Les Azure Federation, donc là, la seule difficulté, c'est qu'il faut avoir accès aux Azure Federation, qui est une CTP privée encore pour l'instant.
Tout à fait. Donc les Federation, ça permet de faire du sharding de base d'instances de base SQL Azure. Donc ça, c'est quand même assez important pour la montée en charge SQL Azure.
Ensuite, un peu de scripting avec des commandlets.
Oui, parce que maintenant, on a une API SQL Azure pour créer des instances, etc. Donc ça, c'est bien.
Et puis après, on peut laisser des commentaires.
Oui, non, mais oui, c'est bien. Voilà, on va laisser un commentaire, c'est bien.
Ouais. Alors, tiens,
ah,
Ça coûte moins cher.
Ça coûte moins cher. Alors là, ça c'est quand même, c'était pas mal attendu. Donc la baisse de prix sur les coûts de storage. Donc ouais. On parle du storage, table storage, blob storage, essentiellement le Q storage aussi. Mais
oui, avant de stocker des terras dans les
queues. Voilà, parce que c'est pas encore. Donc c'est surtout pour les blobs, voilà. Ouais. Donc non seulement le prix baisse, mais en plus on a mis en place des réductions de prix en fonction de la volumétrie. Mmh. Donc on a un tarif dégressif. Mmh. Donc le tarif de base qui était avant à 15 centimes de dollars par giga par mois passe à 14 centimes de dollars par giga par mois. Mmh. Donc là, les prix sont en dollars. Évidemment, il y a une conversion en euros, mais qui est une vraie conversion.
Là, oui, c'est pas un dollar en euros.
C'est pas un dollar en euros, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, il faut regarder le cours du dollar en euros. Mais voilà.
Ça fait beaucoup moins cher en euros.
Ah bah c'est clair, hein, c'est une affaire. Et donc, on a un tarif dégressif qui
descend. Vous m'en mettrez 20 téra.
Voilà, donc jusqu'à 50 téra, puis jusqu'à 500 téra, puis jusqu'à 1 péta, puis de 1 péta à 5 péta. Et au-dessus de 5 péta, il faut appeler.
Ah. Hein,
donc on téléphone, on dit bonjour monsieur.
Je voudrais 6 pétas.
Je voudrais 6 pétas.
D'accord.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que le tarif dégressif, donc admettons qu'on soit à 100 téra, on paye 0,112 pour l'ensemble.
Ah oui, dès le premier
giga, on est sur le prix réduit.
D'accord.
Donc c'est vraiment dégressif. C'est pas un prix par palier en fait.
C'est pas comme l'impôt sur le revenu.
Voilà, à partir du moment où je suis passé à 100 téra, je vais payer le prix réduit pour l'ensemble de mon stockage.
D'accord.
Voilà.
Ok. Alors,
service bus, c'est pour toi ça.
Donc en fait, quand on a un relais de web service, c'est-à-dire qu'en gros on a un point de rencontre dans le nuage entre deux web services, enfin l'appelant et le web service lui-même, ce web service qui est derrière son firewall, il s'expose sur Azure.
Ouais.
Et le client appelle sur Azure.
Ouais.
Bon, la difficulté, c'est quand l'implémentation de Azure, là, elle est faite depuis deux serveurs différents, qu'on veut de la redondance.
Ah oui.
On était jusque-là obligé de l'exposer sur deux endpoints différents
et que
le client appelle soit le premier endpoint, soit le deuxième, parce que via la registry, il savait que les deux étaient disponibles.
On ne peut pas faire de balancing dans le relais.
Okay. Maintenant, c'est les deux services, jusqu'à 25, peuvent être relayés par le même endpoint, donc la même adresse. Donc voilà, c'est bien.
Ah bah oui, ça paraît utile.
Voilà. Node.js.
Node.js, donc un nouveau billet de notre ami Steve Marks, qui donc se spécialise un peu, enfin entre autres, sur l'exécution d'environnement non.NET dans Azure. Donc il avait fait un rôle qui s'appelle le Smarks Role il y a quelques temps, qui permettait d'exécuter du Ruby, du Python ou du Node.js. Et là, il a fait un nouvel exemple qu'il a posté sur GitHub, qui s'appelle le Node Role, je crois, qui est spécialisé pour Node.js. D'accord. Donc Node.js,
JavaScript
d'application
côté serveur.
Voilà, JavaScript côté serveur en mode asynchrone pour une forte montée en charge, notamment sur des applications type chat par exemple, pas forcément pour du web, mais jeux en ligne, etc. Donc au-delà de l'aspect Node, ce qui est intéressant, c'est qu'il a développé tout un petit mécanisme pour redéployer l'application en fait en passant soit par GitHub, soit par le blob storage.
D'accord.
Donc il y a tout un petit mécanisme où dans son déploiement finalement il y a une tâche qui tourne qui surveille le blob storage, qui resynchronise régulièrement le blob storage sur les disques locaux de toutes les instances.
D'accord.
Ou bien qui surveille un déploiement GitHub et qui resynchronise le déploiement GitHub sur toutes les instances.
D'accord.
Et du coup ça permet, une fois qu'on a déployé la première fois le package, qui prend peut-être 5 minutes, après on peut pousser des modifs dans le code source très en quelques secondes, quoi. Donc soit on pousse les fichiers .js pour Node dans du blob storage et ça redescend sur les instances.
Ouais.
Soit on push, on commit finalement et on push ces modifications dans GitHub et pareil, ça redescend dans les instances.
D'accord.
Donc ce mécanisme-là, il est assez générique. Donc en fait, c'est assez intéressant.
Voilà. À plein d'endroits.
On pourrait l'appliquer l'appliquer à du PHP, à n'importe quoi. Donc c'est intéressant à voir puisque tout fait là. Il a un petit outil en ligne de commande qui permet aussi d'envoyer des fichiers locaux facilement dans le blob storage en ligne de commande.
L'exemple qu'il a pris, la twoenglishes.com, en fait, c'est un site qui traduit de l'américain en anglais d'Angleterre, parce que il était en train de faire une présentation en Angleterre et que lui-même est américain.
Oui, c'est sympa. Tu peux essayer avec Lyft ou Color ou etc.
Et puis un blog post donc de synthèse un peu pour expliquer comment fonctionnent les certificats dans Azure, parce qu'il y en a un peu partout.
Pour tes propres trucs.
Moi je suis comme ça. Donc là,
un scandale.
Donc là en fait un rappel rapide sur comment fonctionnent les certificats, à quoi ça peut servir.
C'est-à-dire dans Azure il y a plusieurs types de certificats.
Ouais.
Qui servent à plusieurs choses différentes.
Exactement.
Donc c'est bien d'avoir.
Et donc là, c'est juste pour dire qu'est-ce qu'on utilise où et quand et comment ça marche. Donc
c'est super.
Ça rentre pas dans le détail sur comment ça marche, mais le but, c'est surtout d'essayer de comprendre quand est-ce qu'on utilise quoi.
Les différents types de certificats et quand est-ce qu'ils sont utilisés.
Super. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le tour, là.
Eh ben oui.
Magnifique.
Donc, voilà. Merci. À la prochaine fois.
Merci à toi. Merci, Pierre.
Merci, Pierre.
Et à la prochaine fois.
À la prochaine fois.